Chapitre 8. La fête se poursuivit jusqu'à ce que le dernier convive se soit abattu au centre d'une flaque de vin coagulé. La musique continua à déverser son vacarme d'acier froissé durant une trentaine de minutes encore, puis le lecteur s'arrêta et les haut-parleurs n'émirent plus qu'un chuchotis régulier ponctué par les rots, les hoquets ou les spasmes intestinaux des fêtards repus. Lisa et la métisse s'appliquèrent à feindre le sommeil au milieu de ce champ de bataille au relent de vin, de fumée et de vomissures. Ça et là, quelques hommes agenouillés s'acharnaient à besogner des femmes endormies, sans paraître s'apercevoir le moins du monde du désintérêt de leurs partenaires. La nuit s'écoula dans cette atmosphère d'anéantissement comateux. À deux reprises, Lisa se haussa sur les coudes pour tenter de repérer Gott, Mikowski ou Berthalem, mais l'enchevêtrement des corps rendait toute recherche impossible. Les vapeurs des boissons fermentées s'insinuaient doucement dans le cerveau de la jeune zoologue. Au bout d'une demi-heure, elle sentit sa tête d'eau de linée, ses paupières se faire lourdes. Elle se laissa couler dans l'océan flou du sommeil. Lorsqu'elle reprit conscience, le chapiteau se vidait péniblement de sa troupe de fêtards vaincus, malades. Une armée nauséeuse se répandait par les rues de la cité, la démarche hésitante, la main en visière au-dessus des yeux pour se garantir de la lumière du dehors. Lisa ramassa une blouse blanche souillée de vin qui traînait dans une flaque, la posa sur les épaules de la jeune métisse et, soutenant sa compagne, comme s'il se fût agi d'une pocharde incapable de mettre un pied devant l'autre, se mêla à la foule qui prenait le chemin de la tente de repos. Elles croisèrent un groupe de gardes, puis une patrouille de légionnaires en costume cannibale. Mais personne ne fit mine de les arrêter. Le chapiteau dortoir prit rapidement l'allure d'un hôpital encombré. Gott reposait dans sa cellule, ivre-mort en compagnie d'une grosse femme au sein mou. Mikowski feignait de dormir, un oreiller sur le ventre. Lisa et Saba s'allongèrent de part et d'autre du savant et entreprirent de lui raconter les derniers développements de la situation. La notion de guerre d'écartèlement fit passer un frisson de crainte sur l'épiderme du professeur. La journée s'enlisa dans la lourdeur d'un abrutissement où se mêlaient à dos égales ivresse et fatigue. Vers midi, une voix s'éleva dans le lointain, étouffée, à la limite du murmure. Une voix de somnambule qui éveilla un écho désagréable dans la mémoire de Lisa. Des bribes de phrases inarticulées s'effilochaient au long des ruelles de toile. La jeune femme quitta sa couche, remonta à la travée et passa la tête par l'ouverture d'accès de la tente collective. Les vagissements continuaient, tour à tour criards ou plaintifs. Elle reconnut enfin la voix du rêveur. « Je suis le siamois, balbutiait ce dernier, celui qui a pris racine. Écoutez ma parole, car c'est celle de la bête. Des temps de mort et de sang se préparent. Des visions d'arrachement viennent troubler mon sommeil. Des êtres impies s'apprêtent à démanteler le grand organisme dispensateur de vie, à l'écarteler, à lui rompre articulations, membres et têtes. Or, sachez-le, mes frères, il n'est de salut que dans la cohésion du grand tout. Il n'est de survie que dans la préservation de l'unité. L'éparpillement, c'est la mort. Fermez vos oreilles au chant des sirènes, au son des chimères. Opposez-vous à ceux qui prônent la dislocation anatomique. La course à la croissance tuera celle qui nous aime. Déjà sa chair se tend sur ses os. Des plaines jadis douces aux pieds, molles comme une joue d'enfant, sont aujourd'hui sèches et creuses, tendues sur l'armature des côtes saillantes. Il est temps de réagir, ô mes frères. La suite se perdit dans un murmure inintelligible. Un certain affolement régnait dans les rues, les gardes couraient en tous sens, guettant une consigne, un ordre. Les quelques badauds qui s'étaient hasardés aux abords de la place furent violemment repoussés à l'intérieur des abris. La tête du rêveur ballottait au ras du sol, comme si elle cherchait à s'arracher du piège de la boursouflure. Il y eut un court instant de silence, puis l'illuminé reprit sa lamentation prophétique. Dans la tente de repos derrière Lisa, beaucoup s'étaient assis sur leurs couches. Une expression d'intense égarement déformait leur visage. Quelques-uns parmi les plus âgés se bouchèrent ostensiblement les oreilles. Lisa se dissimula du mieux qu'elle put dans les plis de l'ouverture. Berthalem venait de surgir d'une ruelle voisine, suivi de près par sa cohorte légionnaire écarlate. Leurs pieds giflaient la peau de la colline dans un martèlement plein de rage. « L'éparpillement, c'est la mort !» hurla une nouvelle fois le rêveur. « Opposez-vous à ceux qui prônent la dislocation anatomique. L'œuvre de destruction est en marche, elle nous condamnera tous. » « Faites donc taire cet imbécile !» rugit Berthalem en rajustant ses lunettes bleues. « Qu'attendez-vous ? Qu'il sème la panique ?» L'un des soldats en armure pourpre se détacha du groupe et s'agenouilla devant le somnambule. Sans aucunement appuyé, il posa ses doigts en collier autour du cou de l'inconscient, provoquant l'apparition immédiate d'ulcères perforants. Lisa ferma les yeux pour échapper à la vision de ses chairs que les sucs digestifs dévoraient à une vitesse phénoménale. L'épiderme disparut en quelques secondes, puis les muscles striés de tendons, de veines. Lorsque le légionnaire dénoua les mains, il ne subsistait plus au creux de ses paumes que l'architecture épineuse et jaunâtre des vertèbres cervicales mises à nu. La tête du rêveur pendait au bout de ce cou de squelette, trop lourde, la bouche dilatée sur un cri que personne n'avait entendu. L'exécuteur se redressa, saisit le crâne par les oreilles et tira d'un mouvement sec, arrachant du sol la tête du criminel aussi facilement qu'on cueille un légume. Ce macabre travail accompli, la petite troupe se dispersa en silence. Sur place, la cicatrice étalait la boursouflure d'une grimace à présent étrangement vide. Lisa recula, muette d'horreur. Au cours des jours qui suivirent, un curieux malaise se développa, empoisonnant insidieusement l'atmosphère de la colline. Les dernières paroles du rêveur avaient fait leur chemin. C'était indéniable. Lisa surprit plusieurs fois des groupes chuchotants qui se dispersèrent à son approche. On commençait à douter, à s'interroger sur le bien fondé de la guerre d'écartèlement. Des inscriptions apparurent, maculant la toile du chapiteau laboratoire. Elles disaient toutes leur opposition à la politique de surcroissance et de morcellement. Lisa ne sortait plus qu'en compagnie de Gott, Berthalem ayant l'air d'avoir oublié jusqu'à l'existence des intrus. Ils avaient jugé plus sage de cacher Mikovski, trop voyant, et Saba, blessé. Les deux jeunes gens s'absorbaient dans des besognes fictives, transport de caisses ou de câbles, dont la principale vertu était de les rendre invisibles aux yeux des patrouilles de police arpentant les rues. Affairés et transpirants, ils gagnèrent ainsi les abords de la ville et s'arrêtèrent au flanc d'un coteau de chair nue. La première constatation leur fit naître un pincement au creux de l'estomac. Berthalem avait mis les jours précédents à profit pour augmenter la surface de l'anneau entourant la montagne. Désormais, une large ceinture de tissu digestif encerclait la hauteur. Une ceinture bien trop large pour qu'on pût la franchir d'un simple saut. L'aéroglisseur attendait de l'autre côté de cette barrière suintante, avachi au milieu de la plaine. Le capot ouvert de la soute à moteur laissait clairement entendre qu'on y avait prélevé un certain nombre de pièces indispensables. « Ça sent mauvais, » observa Gott. « Ce fossé, on dirait qu'on y a travaillé d'arrache-pied depuis notre passage. Contre qui crois-tu que veut se prémunir Berthalem ? Contre Isijamine ? Contre les autres cités ?» Lisa se mâchait nerveusement la lèvre inférieure. Elle eut une moue négative. « Je crois que Berthalem ne redoute pas les invasions, mais plutôt les désertions. » L'épisode du rêveur a fait mauvais effet sur la population de la colline. Cet homme tronc enraciné dans sa blessure semblait posséder de singuliers pressentiments. Sans l'anneau de sécurité et sans les gardes pourpres, tu peux être sûr que l'exode aurait déjà commencé. Notre hôte le sait aussi. Il prend ses précautions pour enlever à ses ouailles toute velléité de fuite. Comment sauter le barrage ? Aucune idée. Peut-être vêtu d'une armure cannibale ? Une muqueuse digestive ne peut pas se digérer elle-même. Il n'y a qu'à voler quatre de ses costumes. God eut un rire sans joie. « Tu serais volontaire, bien sûr, » ironisa-t-il. « Pas vraiment. Tu as vu la marque sur le dos de Saba ? Je me demande même comment les légionnaires peuvent porter de pareils vêtements sans accident. Ils s'enduisent probablement d'une pommade à base de mucine, ces substances qui protègent l'estomac contre l'action des suites gastriques, » marmonna rêveusement Gott. « Tout cela doit bien sûr se trouver sous clé, dans un endroit seulement connu de Berthalem. » En attendant, la pression monte. On chuchote, on complote. Il suffirait de peu de choses pour qu'éclate une mutinerie. Une patrouille venait dans leur direction. Ils ramassèrent leurs caisses et plongèrent dans le détale de ruelles de toile, se fondant dans une foule maussade aux yeux obstinément baissés. Ils furent réveillés au cours de la période de repos par une intense chaleur qui empourpra le sommet de la colline un peu avant minuit. Sueur et vapeur envahirent le chapiteau dortoir de leurs émanations âcres, transformant l'abri en sauna improvisé. Une soixantaine de dormeurs paniqués se piétinèrent pour atteindre la sortie. D'autres déchirèrent la toile à coups d'hameçon et bondirent à l'extérieur dans la confusion la plus totale. Sous leurs pieds nus, le sol présentait partout le même aspect enfiévré. Une auréole infectieuse semblait couronner à présent la partie supérieure du monticule de chair, un disque brûlant, gonflé, dont le centre n'était autre que la blessure du rêveur. Une sorte de terreur sacrée s'empara des habitants de la montagne. Des groupes hurlants se mirent à courir au long des ruelles. Des femmes se jetèrent à terre en s'arrachant les cheveux et les poils pubiens. On alluma des torches, une procession se forma. Peu à peu, les cris se fondirent en une psalmodie menaçante. « Sacrilège !» cria quelqu'un. « La bête nous fait sentir sa colère. »«
Sacrilège !»«
Malheur sur les assassins du rêveur !»« Mort aux criminels !»« Mort aux partisans de la dislocation !» D'autres bouches reprirent en chœur. Une délégation éplorée traversa la salle pour aller se prosterner sur la cicatrice suintante. La chaleur de l'œdème les empêcha de tenir plus d'une trentaine de secondes. Ils se replièrent en grimaçant, la plante des pieds couverte de cloques. God se passait nerveusement les doigts dans les cheveux. L'atmosphère d'hystérie devenait contagieuse. « Bon sang, cracha-t-il, qu'est-ce qui se passe ?» Mikovski haussa les épaules. « Un phénomène, tout ce qu'il y a de plus naturel. » Le corps de l'homme tronc est en train de pourrir à l'intérieur de la bête, déclenchant une petite infection locale. Ces excités interprètent ça comme un signe des dieux. Il y a du lynchage dans l'air. Restons groupés. L'apparition des gardes écarlates provoqua un brusque reflux de la foule qui dévala la pente de la colline. La bousculade tournait au chaos. La grappe humaine glissa le long du flanc de la chair élastique pour buter sur la ceinture d'absorption luisante de salive. Stoppés net dans leur élan, les fuyards oscillèrent devant cette frontière gourmande et mortelle sans parvenir à prendre de décision. Des torches furent lancées que les sucs digestifs éteignirent en grésillant. La panique se changea alors en colère, l'impuissance en rage. L'escouade des protestataires fit volte-face, se remuant vers la ville avec l'intention évidente d'entamer un saccage en règle. Les gardes écarlates s'abattirent sur eux à la lisière des faubourgs. Il ne leur fallut pas plus d'une minute pour fragmenter la masse compacte des manifestants à coups de drapeaux humides. Les lambeaux des muqueuses frottaient les bras, les épaules, les poignets avec un horrible bruit mou de viande attendrie au maillet. Chaque gifle gluante dévorait la peau, gommait l'épiderme, transformant les plus exposés en écorchés vifs.
Le spectacle était insoutenable.
Les mutins s'éparpillèrent sans demander leurs restes, abandonnant sur place torches, gourdins et blessés. Un silence de loi martiale s'apesantit sur la cité. Anéantie, Lisa alla rejoindre God qui examinait l'anneau de protection à la jumelle. Il se tenait blotti dans un repli de la tente collective. Elle s'installa à ses côtés, ramenant sur elle l'étoffe mal tendue de la cloison, comme elle l'aurait fait d'une couverture. Il aurait fallu une passerelle, observa placidement le garçon. une sorte de petit pont bricolé avec des lits de camp mis bout à bout. La jeune femme souffla par les narines, étouffant un gloussement amer. Et les soldats rouges les auraient laissés installer leur ponton sans réagir, n'est-ce pas? Tu imagines sérieusement un groupe de 60 ou 70 personnes en train de piétiner sur une passerelle de sangles branlantes? Moi pas. Ok, ok. Tu as une meilleure idée? Il n'y a pas un seul véhicule dans toute la ville. Pas une jeep, encore moins d'aéroglisseur. Le matériel de levage ou de construction est inexistant. À croire que Berthelem a pris soin de se débarrasser de tout ce qui pourrait aider ses partisans à prendre la fuite. Il n'y a que des tentes, quelques ordinateurs portables, de la verrerie de laboratoire. Pour le reste, des primitifs humanoïdes sont encore mieux équipés que nous. Lisa acquiesça en silence. Elle savait tout cela. Comme son compagnon, elle s'était livrée à un inventaire discret. Le dénuement technique de la ville de Toile l'avait effarée. Dès le lendemain, Hugues Berthelem intensifia sa campagne de croissance. Tout le sommet de la colline se trouva occupé par l'équipe préposée aux injections stimulantes. De gros canons pneumatiques bombardaient le sol à bout portant, propulsant à travers les multiples couches de graisse des seringues obus délitables dont la charge accélérait le balai des hormones de construction. Les projectiles creusaient leur trajectoire dans un écœurant bruit de succion. Les trous, aussitôt aspergés d'hémostatiques, se refermaient sans laisser filtrer la moindre goutte de sang. À la 15e salve, Lisa eut l'impression que le monticule de chair allait se mettre à gonfler sous ses pieds, comme un ballon de baudruche sur lequel s'essouffle un enfant. L'homme aux lunettes bleues tenait visiblement à précipiter les choses, à prendre de vitesse la vague de contestation née des balbutiements du rêveur. Une telle détermination avait quelque chose d'effrayant, d'irrationnel. S'éloignant du lieu d'infiltration, Lisa descendit à mi-coteau pour examiner à loisir la texture de la peau formant les versants de la colline. Elle était grasse et blanche, malsaine, comme celle de ces bébés obèses que des mères béates gavent de bouillie farineuse, mettant tout leur honneur et toute leur énergie à les engraisser tels des porcs de concours. Elle aurait aimé procéder à quelques prélèvements, mais son matériel était resté dans la benne de l'aéroglisseur. Elle se contenta donc de gifler et de pincer cet épiderme gélifié à la consistance d'entremets chimiques. Elle n'en tira bien sûr aucune conclusion scientifique. Tout juste un sentiment irraisonné de catastrophe imminente. Les injections durèrent toute la nuit, ébranlant les chapiteaux de leur martèlement syncopé. Des rumeurs invérifiables couraient de bouche à oreille. On prétendait que la milice écarlate arrêtait tous ceux qu'une brûlure due aux muqueuses cannibales dénonçait comme ayant participé à la brève mutinerie de la veille. Il devint encore plus impératif de cacher Saba, qui ne desserrait plus les dents et que l'angoisse faisait virer au gris. God développa publiquement son idée de poton bricolé, mais ne réussit à éveiller que la méfiance. On le prenait probablement pour un provocateur. Lisa, elle, passait mentalement en revue tous les moyens susceptibles de l'aider à sauter la barrière dévorante. Elle envisagea tout ce qu'il était humainement possible d'imaginer et conclut son inventaire par un haussement d'épaule découragé. Le jour suivant, Mikowski la prit à part et l'entraîna sous le vent de la tente dortoir, d'où on pouvait embrasser toute l'étendue de la plaine. « Regardez, chuchota-t-il sans presque remuer les lèvres. J'avais fait des marques sur le sol dès le début des injections. Deux estafilades parallèles, distance de 10 cm. Aujourd'hui, un bon pas les sépare. Il n'y a pas 36 solutions. La colline gonfle à une vitesse démentielle. Et ce n'est pas tout. Personne ne semble encore l'avoir remarqué, mais jetez donc un œil sur l'anneau de protection. Les produits de croissance l'ont atteint lui aussi. Il se développe encore plus vite que le monticule. » Lisa saisit précipitamment les jumelles. Mikowski avait raison. La barre écarlate s'était élargie. Elle festonnait au bas de la colline, jetant de grandes avancées humides à l'assaut des versants. Aucun tissu vivant ne se renouvelle au même rythme, soliloquait le professeur. Dans le cas de la bête, il semble que la muqueuse stomacale externe croise deux fois plus vite que le derme, ce qui revient à dire que l'anneau de protection pourrait d'ici peu recouvrir toute la montagne, termina Lisa dans un souffle. Exactement.
C'est comme une grève qui s'étendrait, gagnerait du terrain. L'anneau va s'épaissir de l'intérieur, comblant son vide interne jusqu'au moment où il formera un cercle plein. Cette réunion fait d'ailleurs songer à un processus de cicatrisation. Berthelem a commis une erreur en adoptant la disposition en couronne. Cette figure a probablement été ressentie par la logique cellulaire comme une blessure, un trou que la mitose se devait de boucher au plus vite. Combien de temps avant que l'encerclement n'atteigne les faubourgs de la ville ? Je ne sais pas. Au rythme actuel, 2 ou 3 jours. Il faut évacuer dès aujourd'hui, avant que la surface à franchir ne soit trop importante. Il suffit que l'un de nous passe, aille reconstituer l'aéroglisseur et assure la navette entre la plaine et la colline. Je vais aller voir Berthelem. C'est un scientifique, il ne pourra que s'incliner devant l'évidence. La jeune femme sursauta. Vous êtes fou ? Il ne vous écoutera jamais, c'est un paranoïaque. Jamais il n'acceptera l'idée d'une évacuation massive, d'un exode. Il préférera se laisser digérer avec son peuple. Si vous lui parlez, il vous fera abattre sur l'heure. Mais alors, il faut décider d'un plan d'action rapide. Si nous attendons, la barrière va devenir chaque jour plus infranchissable. Aujourd'hui 80 mètres, demain 130 et ainsi de suite. La ville va être dévorée, Lisa. C'est aussi simple et définitif que cela. J'ai très bien compris, professeur. Mais parler à Berthelem ne servira qu'à précipiter l'Holocauste. Il faut nous débrouiller par nous-mêmes avant que quelqu'un ne remarque l'extension de la barrière. Mis au courant, Goethe et Saba optèrent pour la même solution, à la fois plus artisanale et plus logique, le tunnel. Il faut passer au-dessus ou en dessous, argumenta le jeune homme. Au-dessus, c'est impossible à cause des milices écarlates. En dessous, c'est encore faisable, si la distance n'est pas trop grande. Il suffira de descendre à 3 mètres et de creuser dans le tissu adipeux. Il n'y aura pratiquement pas de sang. Avec un laser de chirurgie, on peut faire fondre la graisse et cicatriser les vénules en même temps. Il est probablement impossible de se procurer un tel appareil, objecta Lisa. Si nous devons creuser à la main, ce sera un travail de titan, comme de dépecer une baleine avec un couteau de poche. Je suis tout à fait d'accord avec toi, renchérit Saba. C'est une idée de dingue, et je n'y crois pas une seconde. Mais il faut bien se résoudre à tenter quelque chose, non ? Mikovski calcula qu'étant donné l'avance rapide de l'anneau, il conviendrait d'ouvrir le tunnel à mi-pente, de préférence à l'intérieur d'une tente plus ou moins désaffectée. Goethe, lui, se targuait d'assurer au boyau une progression constante d'au moins 20 mètres toutes les 12 heures. « C'est de la graisse, répétait-il inlassablement. On va rentrer là-dedans comme dans du beurre. » Lisa était loin de partager un tel enthousiasme, mais elle aida Saba à voler des pelles, puis à en aiguiser les tranchants jusqu'à le rendre aussi coupant que le fil d'une machette. Malgré tous leurs efforts, il leur fut impossible d'accéder à la tente laboratoire pour y dérober un quelconque laser chirurgical. Goethe et Saba emménagèrent dans un abri peuplé de cases vides à flanc de coteau. Il fut décidé que Mikovski et Lisa resteraient en ville et travailleraient à recruter d'autres candidats à l'évasion parmi la population du chapiteau dortoir. Cette partie du plan se révéla très vite assez utopique. Au premier sous-entendu, on se mit à les fuir comme des pestiférés. Certains même allèrent jusqu'à les traiter de provocateurs. Ils durent renoncer. Le climat de la cité se détériorait. La méfiance réglait toutes les conduites. Les conversations, à force de se vouloir anodines, s'effilochèrent en bulles de silence. La ville entière se mura dans une attente obscure et palpitante, rythmée par la détonation sourde des canons pneumatiques qui continuaient à cracher leur salve empoisonnée. À la fin de la première journée, Lisa alla rejoindre Goethe et Saba, pour les aider à évacuer les blocs de graisse en plissant la tente où s'ouvrait désormais la brèche du tunnel. Le jeune homme avait travaillé comme un esclave, perçant un boyau jaunâtre et suintant d'une quarantaine de mètres. La métisse avait étayé cette trouée à l'aide de débris de caisse, mais l'ensemble restait fragile et dangereusement mouvant. On dirait une section d'intestin parcourue de spasmes, nota malgré elle la zoologue. « C'est ça, rougit Saba, sape-nous le moral. Viens plutôt vider les déblais. » Lisa s'activa. L'opération consistait à écarter deux pans de l'abri, à pousser dehors un quartier de tissu adipeux et à le laisser dévaler le long de la pente jusqu'à l'anneau écarlate qui le digérait en une trentaine de secondes. Très rapidement, elle fut couverte de graisse de la tête aux pieds. Imitant Saba, elle tirait, mordait, se cramponnait de tous ses membres pour réussir à déverser la montagne de débris pièce à pièce. Les blocs mous cascadaient en une suite de gifles tremblotantes, rebondissaient parfois comme d'étranges quartiers de gelée. Heureusement, les abords de la ville étaient peu surveillés, la ceinture dévorante garantissant Berthalem contre toute tentative de fuite. Personne ne put assister à cette avalanche cauchemardesque, rien moins qu'esthétique. En une demi-heure, la barrière de protection engloutit près de 40 mètres cubes de déblais, mais son appétit paraissait toujours intact. Lisa en fut un peu effrayée. « Gott travaille vite, dit-elle, pour penser à autre chose. Je n'aurais jamais cru qu'elle serait capable de progresser aussi rapidement. »« C'est du beurre, effectivement, grimaça la jeune métisse. Le problème, c'est qu'on commence à manquer d'air. Il faudrait installer une soufflerie, mais on n'a pas le temps. Si on perce des trous au-dessus de notre tête, le suc digestif s'y infiltrera dès qu'on passera sous la zone d'absorption. C'est sans issue. » Parlez-en à Mikowski, s'il pouvait faire quelque chose. Lisa prit la place de Saba, qui se pelotonna dans un coin de la tente pour dormir quelques heures. La descente au creux du tunnel lui fit l'effet d'un cauchemar de claustrophobe. Les parois jaunes, suintantes, que parcouraient de sourdes trémulations, lui rappelèrent les rêves de dévoration qu'il assaillait durant son enfance. Elle dut véritablement lutter pour ne pas faire demi-tour. Très étroit, le boyau ne permettait qu'une reptation laborieuse, un enlisement viscéral au sein d'un abîme élastique où l'air se raréfiait au fur et à mesure qu'on s'éloignait de l'entrée. Lisa dut s'arrêter deux fois, les poumons fous, des taches lumineuses sous les paupières. Gott était affaissé au bout du tunnel. Elle crut un instant qu'il avait succombé au manque d'oxygène, mais il dormait tout simplement, écrasé de fatigue. Elle lui ôta doucement la pelle-tranchoir des mains et s'attaqua à la muraille. La lampe torche volée dans les fournitures du dortoir affichait le chiffre 12 sur son cadran d'autonomie. Encore 12 heures de lumière. Après, ce seraient les ténèbres. La nuit. Elle planta son outil au milieu de la paroi, fut étonnée de le voir pénétrer à mi-manche, et s'appliqua à travailler selon un rythme que ne viendrait briser aucune fausse manœuvre. Elle commença par s'enthousiasmer de la facilité avec laquelle elle avançait, puis la pelle s'alourdit au bout de ses poignets. Une crampe sournoise, lancinante, se lança à l'assaut de ses avant-bras, de ses épaules. Son sang, mal oxygéné, n'éliminait plus les déchets de la fatigue musculaire. Elle dut s'arrêter et se coucher au creux des déblais, le cœur battant la chamade, les larmes aux yeux. Gott s'était réveillé entre-temps. Sans un mot, le regard vide, il entreprit d'assembler les étais et de refouler les débris graisseux vers l'entrée du tunnel. Ils continuèrent ainsi, se relayant toutes les heures, alternant les tâches. Lisa aurait donné 3 de ses doigts pour un comprimé d'aspirine. Une migraine épouvantable lui martelait la moitié du cerveau. Ses tempes bourdonnaient et elle était constamment forcée de déglutir pour déboucher ses tympans. Gott avait la langue et les lèvres violettes. Des veines dilatées saillaient sur son front en un réseau de ramifications turgescentes. Ils firent une nouvelle pause, côte à côte, épaule contre épaule, comme deux gisants oubliés dans l'ogive jaunâtre d'un sépulcre de graisse. Par moments, des secousses spasmodiques déformaient l'alignement du tunnel. Les étais craquaient de façon inquiétante, les parois frissonnaient. Puis tout rentrait dans l'ordre, et il ne restait rien d'autre à faire qu'à se remettre au labeur. Lorsque le garçon eut un début de syncope, Lisa décida d'aller réveiller la jeune métisse pour qu'elle vienne le remplacer. Saba était debout. Le nez entre deux pans de toile, elle observait la plaine, une expression de profonde inquiétude sur le visage.
La zone rouge avance très vite, souffla-t-elle en saisissant le poignet enflé de Lisa. Regarde. C'était vrai. L'anneau humide de la muqueuse d'absorption directe s'élevait maintenant à mi-pente. La frontière rouge de papilles dilatées fleurissait à moins de 10 mètres de la tente. Les faubourgs de la ville voyaient leur superficie diminuer d'heure en heure. Il faut dire à Mikovski de venir, observa Lisa la bouche sèche. D'ici ce soir, la barrière de protection aura atteint les premiers chapiteaux. Il faut tous être dans le tunnel à ce moment-là. Je vais le chercher. Gott n'en peut plus. Laisse-le se reposer. Elle quitta l'abri, s'assura que personne ne l'observait et fila vers la ruelle la plus proche. Un vacarme de cris, d'injures et de slogans braillés à plein poumon montait du cœur de la cité. Une odeur de feu, des flammèches et un vent de suie lui apprirent qu'on avait mis le feu à une ou plusieurs tentes. Au hasard des rues, des blessés refluaient, la peau dévorée par les chiffres des drapeaux cannibales ou les étreintes des légionnaires pourpres. Elle trouva enfin Mikovski. Il était entouré d'une dizaine d'hommes et de femmes que la peur rendait d'une blancheur de plâtre. « J'ai pu rassembler quelques candidats, lança-t-il dès qu'il aperçut la zoologue. Ils pourront nous donner un coup de main. Vous devez être épuisé. Qu'est-ce qui se passe ? Ce que vous aviez prévu. La population a pris conscience de la croissance anormale de l'anneau. Elle exige de Berthelem qu'il enraye le processus. Mais je crois que ce pauvre vieux est totalement dépassé. En ce moment, ils se battent pour prendre possession de la tente laboratoire. Ligard ne semble pas décidé à mettre l'épouse. Vous n'avez pu rassembler que 10 personnes ?
Oui, et c'est presque un exploit. L'idée de se déplacer sur la muqueuse n'a pas enthousiasmé grand monde. De plus, ils sont persuadés qu'on peut stopper l'avance de la barrière en utilisant les canons pneumatiques.
C'est possible, effectivement, mais pas en si peu de temps.
Venez, commanda la jeune femme, il faut y aller. La muqueuse touche presque la tente d'où part le tunnel. Je vous préviens, on respire mal à deux, on respirera encore plus mal à 10. Percer un trou pour faire sortir un tuyau d'aération, c'est courir le risque d'une infiltration de sucs digestifs. On ne le tentera donc qu'en tout dernier ressort. Ça va être dur, très dur. Maîtrisez-vous, ne cédez pas à la panique. En vous débattant et en gesticulant, vous risquez de déchirer le tunnel. Vous allez descendre dans un boyau organique, pas dans une galerie de mine. Gardez tout le temps cela à l'esprit.
À l'annoncé de ces recommandations, 4 candidats à l'évasion pâlirent davantage et s'enfuirent à reculons. Lisa ne chercha pas à les rattraper. Au centre de la cité, la confusion atteignait à son comble. Une colonne de fumée s'élevait dans l'atmosphère grasse de la colline, marquant de son point d'interrogation le lieu même de l'affrontement. Les blessés refluaient vers les faubourgs, de plus en plus nombreux. Berthelem est en train de reprendre les choses en main, constata Mikovski. Ne nous attardons pas. Ils dévalèrent la pente, s'engouffrèrent dans l'abri de toile où les attendait Gott. Le jeune homme leur répéta mot à mot les consignes de Lisa, puis se coula dans la blessure du tunnel en les invitant à le suivre. Vous vous coucherez sur le dos, ajouta-t-il avant de disparaître complètement. Vous ferez passer les déblais vers l'arrière, en remuant le moins possible. Nous allons combler le passage derrière nous au fur et à mesure que nous avancerons, mais c'est le seul moyen. Et rappelez-vous, à 2 mètres au-dessus de vos têtes, c'est la zone rouge. Alors pas d'imprudence. Pas de questions ? Alors on y va. Lisa et Mikovski plongèrent immédiatement à sa suite. Saba peignait à l'extrémité de la galerie, ahannant sur sa pelle avec une rage que l'épuisement teintait de pathétique. Le professeur la relaya. La seule consolation, c'est que personne n'osera nous poursuivre ici, observa la métisse en roulant sur le flanc. Il reste combien de mètres avant la plaine ? 20, souffla Gott, mais il faudra compter sur la marge de sécurité.
Pas question d'émerger trop tôt. J'ai rassemblé les étais, les tuyaux d'aération. Ça devrait aller. Il faut surtout bien étalonner le tunnel, connaître à tout moment sa longueur exacte. À chaque nouveau mètre franchi, creuser un chiffre dans la paroi. Pour la lumière, on risque d'être un peu juste et de finir dans le noir. Tant pis. Il convient de respecter une moyenne constante de 2 mètres cubes toutes les 60 minutes. Ça paraît facile, mais la fatigue nous tombera dessus dès que l'oxygène va se raréfier. Notre avance se ralentira d'autant. À partir de maintenant, travaillons en silence. Pas de conversation, pas de plaisanterie. Économisons nos forces. Ok ? Ils grommelèrent un vague assentiment, l'esprit plein de l'image de la muqueuse montant à l'assaut de la ville. Ils ne pouvaient plus reculer. Lisa s'aperçut avec un soulagement certain que la monotonie de la besogne contribuait à anesthésier la peur. De même, la répétition des gestes, en abolissant tout repère, faisait basculer le temps dans une sorte de présent figé, d'immédiat cotonneux. Mikovski étalonnait consciencieusement le parcours, gravant des chiffres scalpel sur la paroi de tissu adipeux, comme un amoureux creusant un cœur flanqué d'initiales dans l'écorce d'un bouleau un soir de novembre. Gott Saba et la zoologue devaient se relayer de plus en plus fréquemment. L'air vicié saturait la galerie, allumant une irritation douloureuse au fond des poitrines. Les allaitements se faisaient rauques, se faisaient râles. Une syncope paralysa la chaîne d'évacuation des déblais. Lisa ferma les yeux et s'efforça de rester calme. Les évadés de dernière heure amenés par Mikovski lui faisaient peur. Peu familiarisés à l'atmosphère étouffante du tunnel, ils céderaient tôt ou tard à la panique. Elle en était sûre. Elle redoutait par-dessus tout l'inévitable crise de claustrophobie qui ne manquerait pas de se produire dès que la lumière sécurisante de la lampe viendrait à disparaître, faute de pile. Lequel d'entre eux se dresserait alors comme un diable, gesticulant en dépit du bon sens, déchirant les parois du boyau au risque de provoquer une infiltration de suc digestif. Elle se surprenait à guetter les respirations, les tics nerveux, les rictus d'épuisement. « Celui-là sera le premier à craquer, » songeait-elle sombrement, « à moins que celui-ci. » La pelle semblait de plomb, la muraille de béton. En ce moment même, la barrière de protection devait ronger les faubourgs, provoquant le repli de la population sur la place du rêveur. Se battait-on encore ? Berthalem, muré dans sa folie, regardait-il monter la vague écarlate avec une sourde jubilation nihiliste ? Combien ? Haleta Gott. Encore 12 mètres, siffla Mikovski. Nous avons perdu le rythme. Saba étouffa un juron. L'oxyde de carbone obscurcissait le sang de Lisa, la faisant basculer dans une demi-somnolence. Une sorte de présommeil, peuplé d'images incohérentes mais nullement désagréables, qui se répandait par tout son être comme une langueur bienfaisante. On s'endort, cracha Mikovski. Ce n'est plus possible. Il faut tenter d'aérer, sinon on court à la narcose générale. Gott, essaie de placer un premier tuyau. Et si on ouvre la voie aux infiltrations ? Il faut courir le risque. Le garçon grommela, se saisit d'une section de tube métallique dont le bout supérieur avait été taillé en biseau. Le levant au-dessus de sa tête, il l'enfonça selon un angle de 45 degrés jusqu'à ce que la résistance cesse. D'abord, il ne se passa rien, puis une vague sensation de fraîcheur filtra dans le boyau surchauffé. Personne ne souffla mot. Les yeux écarquillés, il fixait le tube luisant, attendant avec angoisse le moment où des sucs digestifs commenceraient à perler en gouttes épaisses. Il ne se passa rien. Mikovski claqua des paumes pour rompre l'hypnose générale. Lisa relâcha les muscles de son ventre. Saba lui tendit la pelle. Le choc se produisit à la seconde même où la lampe s'éteignait. Un gémissement de terreur parcourut le boyau, accompagnant la vibration sourde de l'impact. Lisa s'immobilisa, la pelle levée. L'oxygène semblait encore plus rare dans les ténèbres, elle s'efforça de chasser cette impression ridicule.
Une nouvelle secousse ébranla le plafond, faisant grincer les étais. Une image assaillit la zoologue. Celle d'un sous-marin en plongée, assailli par une volée de grenades de profondeur. La main de Saba se crispa frénétiquement sur sa cuisse, lui entamant la peau. « C'est Berthalem, » balbutia la métisse. « Il a repéré l'entrée du tunnel. À moins qu'on nous ait dénoncé. Il ne peut pas supporter que quelqu'un échappe au massacre. Ces chocs, ce sont les obus seringues des canons pneumatiques. Il nous bombarde avec son liquide de croissance accélérée. Quel intérêt, objecta Gott. Les projectiles se dissolvent presque immédiatement. Nous ne risquons pas d'être touchés par un éclat. Il ne s'agit pas de vrais obus. Bon sang, Irutankovski, réfléchissez. S'il utilise une solution concentrée de produits stimulants, il peut provoquer une cicatrisation immédiate de l'épiderme. La chair entaillée va se reconstituer à toute allure, le tunnel s'obstruer de lui-même. Nous allons être pris dans la graisse comme des fossiles dans une banquise. Il avait hurlé ses dernières paroles sans s'en rendre compte. Un cœur terrifié s'éleva dans l'obscurité. Une femme cria sur le mode hystérique. Quelqu'un se débattit, martela la cloison à coups de pied et de poing. Des mouvements invisibles et désordonnés agitèrent la galerie en tous sens. Ressaisissez-vous, tonna Mikovski, vous gaspillez inutilement l'oxygène. Ce n'est pas le moment de flâner. Chaque minute perdue fait le jeu de Berthalem. Que chacun reprenne sa place. Avec un peu de persévérance, nous serons dehors dans moins d'une heure. C'était un calcul optimiste. Mélisa voulait y croire de toutes ses forces. Les bras bourdonnant d'une rage désespérée, elle leva la pelle à l'horizontale, comme une baïonnette, et la planta dans la paroi jusqu'à mi-manche. Ce simulacre meurtrier l'emplit d'une jubilation destructrice. Elle se mit à frapper à une cadence infernale, tailladant le derme comme elle l'aurait fait de la poitrine d'un ennemi abhorré. Toute fatigue l'avait soudain désertée. Elle n'était plus qu'une machine de haine, une excavatrice folle que rien ne pourrait plus arrêter. Elle creusa une heure durant, la bave aux lèvres, puis s'abattit au milieu des déblais. Elle sentit qu'on la faisait basculer sur le flanc, on lui prenait la pelle. Quelqu'un s'installait à sa place, la relayant. Gott, Saba, elle ne sut l'identifier. Un vent de syncope soufflait dans sa tête. Seules les secousses répétées des impacts l'empêchèrent de sombrer dans l'inconscience. Le pilonnage se poursuivait, vidant méthodiquement l'arsenal de Berthalem. Il lui sembla que la graisse se faisait plus solide sous ses reins, plus serrée. Dopé par les injections reconstituantes, l'épiderme allait-il acquérir une densité nouvelle? Une texture sur laquelle s'émousserait bientôt le fil des outils? C'est de plus en plus dur à le tagote tout près d'elle. On croirait de la terre gelée. D'ici peu, on ne pourra plus creuser. Le tunnel va se cicatriser et nous serons dedans. La panique affleurait, allumant dans sa voix un curieux trémolo. Lisa tenta de se redresser sur un coude. Elle réalisa subitement que sa main était prise dans la graisse, comme dans la glace gelée d'un étang. Le tissu adipeux avait profité de son inertie pour se reconstituer autour de ses doigts, les emprisonnant dans une gangue gélifiée horriblement collante. La peur s'empara d'elle. Elle dut secouer le bras de toutes ses forces pour parvenir à se dégager. Un cri monta derrière elle. « J'ai les pieds pris. Au secours! Faites quelque chose, je ne peux plus remuer. » Moi aussi renchéris un autre fuyard. « C'est comme un socle de statue, je suis soudée au mur. Un outil, vite, ça monte !» Cette dernière affirmation déchaîna la panique. Une bousculade affolée jeta les évadés contre les cloisons, faisant céder les étais les uns après les autres. « On ne peut plus attendre, » lança Saba. « Il faut sortir tout de suite, éventrer le plafond. » « La marge de sécurité est trop courte, » protesta Gott. « On risque d'émerger en pleine zone rouge. Il faut creuser encore une heure. »« Dans une heure, nous serons tous englués comme des fossiles, » ragea la métisse. « Tu ne comprends donc pas ?» C'est maintenant ou jamais. Il y eut une lutte confuse, des coups et des jurons. Lisa devina que Saba tentait d'ouvrir le plafond à coups de pelle. Le derme se déchirait dans un chevêtement mouillé qui donnait la nausée.
Ça monte, ça monte !» hurlait-on dans la nuit. « Je suis pris jusqu'aux genoux. Au secours !» La panique était à son comble. Incapable de bouger, Lisa nota qu'une lueur rougeâtre envahissait le boyau, une sorte de halo sanguinolent en provenance de l'extérieur. Elle se contracta, songeant dans une crispation de tout son être, les sucs digestifs. Puis la lumière se fit rose au fur et à mesure que Saba se rapprochait de la surface. Un dernier coup de pelle éventra la plaine, inondant le tunnel du feu cru des projecteurs. La métisse poussa un véritable cri de triomphe. « On est passé, vite, sortez, la plaie se referme déjà. » En deux tractions, elle se hissa au dehors, se penchant au bord de l'excavation et tendit la main pour aider Gott. Lisa retrouva toute son énergie. Griffant et mordant à pleine bouche dans le tissu spongieux de la paroi, elle entreprit de s'élever vers la lumière. Des doigts s'accrochèrent à ses chevilles, tentant de lui faire lâcher prise. Elle se débattit, rua au hasard, toucha un visage, un crâne. Saba la saisit aux aisselles, l'extirpa de l'orifice au bord déchiqueté et l'allongea sur le sol. La lumière atteignait une telle intensité que la zoologue se mit à pleurer. Elle entendit Mikovski qui hurlait « Vite, le tunnel se referme, vite !» Elle s'essuya le visage, se traîna vers le trou et saisit un poignet. Les dents serrées, elle s'arc-bouta, mais elle avait usé ses dernières réserves d'énergie dans la galerie. Elle ne put hisser l'inconnu qui disparut dans l'obscurité avec un cri déchirant. « Éloignez-vous, éloignez-vous !» ordonna Mikovski. « Vous allez être prise dans la plaie. » Elle était incapable de bouger. Elle roula sur le ventre, des mains se refermèrent sur ses mollets, la tirant en arrière. Elle lutta pour ne pas perdre connaissance. Le paysage tournait autour d'elle comme un kaléidoscope. Elle remarqua la ceinture de muqueuse à 10 mètres à peine. Gott, Saba et Mikovski qui se traînaient à 4 pattes, suivis de 3 autres inconnus, des fuyards sans doute, ceux que le tunnel n'avait pas gardés. Au loin, on devinait encore la forme arrondie de la colline, totalement rouge à présent. Elle ouvrit la bouche, balbutia quelque chose d'incompréhensible. « C'est fini !» lui souffla Saba en lui soutenant la nuque. « On ne risque plus rien. Le tunnel vient de se refermer. Dans quelques heures, on n'en distinguera même plus la cicatrice. Berthalem a bien failli gagner. La ville, haleta enfin Lisa. La ville, est-ce que... Ne t'agite pas, commanda la métisse. C'est inutile. Il n'y a plus de ville. »